problème de la dette mondiale n'est pas le même qu'en 67, etc. Et puis, un thème qui n'était pas vraiment actuel en 67, c'était le terrorisme. Aujourd'hui, ce thème est un thème fondamental et central. Il rentre également dans la problématique de la paix.
Comment le combattre? Quels sont les meilleurs outils pour le combattre?
C'est toujours le dialogue. Hein. Et très intéressant de se rappeler que 3 ans avant Populorum Progressio avait été publiée une encyclique très importante sur le dialogue, Ecclesiam Suam. C'était au fond une encyclique du dialogue. Et il est inévitable de promouvoir tous les aspects d'une recherche de vérité, de justice et de fraternité à travers un dialogue. Et ça vaut pour des thèmes aussi importants que le dialogue interreligieux, qui n'était pas encore dans Populorum Progressio quelque chose de central, mais qui aujourd'hui est inéluctable.
En effet, Populorum Progressio soulignait essentiellement un choc entre civilisation traditionnelle et civilisation industrielle. Aujourd'hui, on est plus dans un choc des cultures.
Alors, ce choc des cultures, il est évoqué très souvent. Pour certains, il est inévitable et presque souhaitable. D'autres refusent cette vision manichéenne des choses. Je pense qu'il faut renoncer à employer sans cesse les mêmes expressions, sans les définir et sans se demander à quoi elles conduisent ou quels sont les risques de violence que comportent les termes eux-mêmes, n'est-ce pas? Et évidemment, entre deux cultures différentes, il y a ou une approche, ou une ignorance, ou un heurt. Et donc, c'est une des tâches les plus importantes aujourd'hui que faire dialoguer la raison et la foi. Faire voir que tout cela réalise un seul et même projet d'amour, c'est essentiel. Et par conséquent, ça va plus loin qu'une réflexion trop peu articulée théologiquement sur la charité ou sur la justice.
Jean-Paul II et Benoît XVI, sur les traces de Paul VI, ont souligné l'importance du développement et de la globalisation, mais en conservant toujours l'homme au centre de la thématique, avec une définition anthropologique.
Oui, ce sont des accents extrêmement importants, parce qu'autrement, on n'échappe pas à ce que Benoît XVI dénonce toujours comme subjectivisme et relativisme, c'est-à-dire que pratiquement, si on n'a pas de repères indiscutables, il est impossible d'arriver à une entente plus que superficielle. C'est une des visées du pontificat de faire voir à quel point la vérité et l'amour et la révélation de Dieu et la révélation de l'homme sont des choses intrinsèquement liées. On affirme facilement que la racine de la violence et de l'intolérance, c'est la religion. Parce qu'une conviction absolue ne peut conduire qu'à une réaction de net rejet de ce qui n'est pas conforme à cette conviction. Bon, c'est là qu'il y a quelque chose qui doit être revu. Et ce qui me frappe beaucoup dans l'enseignement de Benoît XVI, c'est la proposition de la foi. Il manifeste la splendeur de la vérité. Il est témoin de la vérité de l'Évangile et de la vérité sur l'homme qui nous provient de Dieu. Il propose cela comme richesse à tout le monde, mais jamais en termes de condamnation.
40 ans après Populorum Progressio et après la première encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est, nous attendons une nouvelle encyclique. Qu'est-ce que vous aimeriez lire et trouver dans cette nouvelle encyclique de Benoît XVI?
Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir comment on peut proposer la foi au monde d'aujourd'hui, parce que je ne pense pas seulement à ceux qui ne connaissent pas la foi chrétienne, mais je pense à ceux qui sont baptisés et pour lesquels tout ce qui a trait à la foi est devenu mystérieux et loin. Faire voir la proximité de la révélation par rapport à ce que nous vivons tous les jours, faire voir de quelle manière se donner à Dieu, accepter de l'accueillir dans nos cœurs, change la vie.
Vous qui avez fréquenté de très nombreux paroissiens, aujourd'hui, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs craintes, leurs peurs?
Aujourd'hui, ils cherchent le bonheur, n'est-ce pas? Par rapport, on parle maintenant des 40 ans de l'encyclique, on parle de la justice. C'était, il y a 40 ans, une exigence extrêmement forte. Alors qu'on a l'impression que, en tout cas dans le monde occidental, qui n'est pas l'hémisphère sud, la plus grande attente, c'est le bonheur. Et c'est au fond de trouver, non pas les biens matériels dont on n'est pas dépourvu, mais de trouver le sens de la vie. Alors qu'évidemment, ceux qui manquent de tout ont une perception beaucoup plus forte de la justice et par conséquent une volonté de lutter pour la justice, attendant que nous aussi donnions une contribution efficace. Mais au fond, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que ceux qui n'ont presque rien ont une attitude plus ouverte, plus positive et très souvent plus heureuse face à la vie. Alors que ceux qui sont nantis et comblés sont souvent malheureux.
Le matérialisme tue l'humanité ?
En tout cas, c'est pas le matérialisme qui favorise le développement humain, non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on peut être apparemment dénué et avoir des richesses intérieures extraordinaires. Ce qui n'est pas une raison, pour ceux qui sont nantis, de dire, ben, puisqu'ils sont plus heureux que nous, laissons-les dans leur état, n'est-ce pas ? Ce serait absurde.
Donc le grand défi aujourd'hui, c'est dire oui au développement, oui à la globalisation, mais toujours dans un cadre de solidarité. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique ?
L'Évangile nous donne déjà l'occasion de voir à quel point certaines choses paraissent peu réalistes. Quand Jésus parle, par exemple, de ceux qui renoncent à se marier, ou bien la phrase de l'Évangile, « Pourquoi vous souciez de ce que vous mangerez, de ce que vous mettrez ?» C'est une provocation. Alors, il faut accepter cela. Il faut voir qu'on est conduit, à travers des défis qui sont paradoxaux, à entrer entièrement dans ce que Jésus nous propose. Le Père vous aime.
Pour conclure, quel est le message, le souhait que vous aimeriez exprimer au regard de cette encyclique Populorum Progressio 40 ans après ?
Eh bien qu'à partir de l'encyclique, à partir de tout ce que le Concile Vatican II a dit, les chrétiens aient assez de courage, de foi et d'espérance pour continuer cette écriture. Parce qu'au fond, le magistère le fait, le rapport qui vient nous être donné montre à quel point les principaux collaborateurs du JCP, les responsables, sont engagés dans une infinité de dialogues et de rencontres. Mais il y a une écriture que les chrétiens doivent continuer tous les jours, n'est-ce pas ? C'est à travers notre façon de penser, de voir, de parler, d'aimer, que les textes du Concile et de l'immédiat après-Concile deviennent une écriture permanente. Donc il y a une certaine créativité qui est la mise en œuvre de ce que Dieu attend de nous aujourd'hui.